Sous le paysage. Épisode 4. Désir dans le paysage. Enregistré à la Série, dans la bergerie de la vallée de Fabrice Hibert, en juillet 2024. En présence de Jean-Christophe Bailly, Maxime Olivier, Anne Simon et Gilbert Tsai, sur l'invitation de Maxime Rovert.
Nous allons interroger la question du désir du paysage. Alors pourquoi le désir ? Parce que comme nous avons exploré les pratiques, en fait, les pratiques sont sous-tendues par des désirs, parfois par des besoins, qui font que le paysage, c'est vrai, ne va pas nécessairement de soi. On ne s'arrête pas toujours devant le paysage pour s'en délecter, on ne l'arpente pas toujours. Bref, toutes les pratiques qu'on a explorées dans le précédent épisode ne s'imposent pas d'elles-mêmes, elles dépendent parfois du désir, parfois pas. Quand on grandit dans un paysage auquel on est attaché et qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas s'extraire. Et puis parfois, au contraire, il y a un grand désir de paysage quand, je ne sais pas, le découvreur ou l'explorateur ou l'exploratrice ou l'aventurière, la voyageuse ou le voyageur vont chercher loin de leur maison toutes les variantes de l'exotisme. Donc, quels sont les désirs qui président à telle ou telle forme de paysage ? Comment, à quelles conditions peut-on favoriser un désir de paysage ? Celui, justement, de s'arrêter, de prendre le temps, de se mettre à l'écoute des autres perspectives, de se décentrer. Bref, tout ce qui rend le paysage fructueux, intéressant, constructif, tout ce qui place aussi la personne humaine dans un rapport ouvert au paysage, tout ça, en fait, relève d'une problématique du désir que je voudrais explorer avec vous. Donc, comment, d'où vient l'envie et comment donner envie sont les deux aspects de cette question du paysage.
Moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans ce que tu apportes là sur cette question,
Maxime,
c'est
Olivier.
Du coup, la notion de désir. Donc, avec un ami Tanguy Descamps, on a coécrit un petit livre chez Actes Sud, qui est un petit manuel de vulgarisation des questions d'éco-anxiété, de manière générale, où on démonte un peu ce terme d'éco-anxiété en parlant plutôt d'éco-émotion, en disant qu'il y a une multiplicité d'émotions qui sont liées à la crise écologique, notamment chez la jeune génération, qu'il n'y a pas que l'anxiété. Et donc du coup, on s'intéresse aussi aux différentes émotions qui sont générées par la crise écologique chez les jeunes notamment, avec toute une série d'émotions qui sont dites négatives. Donc on va avoir la tristesse, la colère, la culpabilité, qui sont autant d'émotions qui sont générées, enfin qu'on perçoit notamment chez les militants et les militantes. Et on s'intéresse aussi à partir du travail notamment de deux psychologues qui sont Alice Debiol et Charline Schmerber à comment est-ce qu'on retrouve aussi les émotions qui sont dites plutôt positives à l'égard, donc là en l'occurrence du paysage, mais de manière plus générale aux enjeux écologiques. Et en fait, on essaye de vulgariser, notamment pour cette jeune génération, comment est-ce qu'on peut vivre avec cette éco-anxiété, cette éco, ce que l'on appelle éco-lucidité ou ces éco-émotions, en prenant conscience que si on vit des émotions dites négatives au sujet de la crise écologique, c'est parce qu'en fait, en creux, il y a aussi des émotions positives. Et donc en fait, si on a de la colère de voir un paysage altéré par un grand projet inutile ou imposé, ou par la destruction du vivant de manière générale, proche de chez nous ou pas proche de chez nous d'ailleurs, c'est parce qu'en creux, on a un attachement à ce paysage et qu'on a du désir de voir ce paysage vivre et continuer d'exister. Et ça, c'est, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça permet de se reconnecter, en tout cas dans la crise écologique, chez beaucoup de jeunes dont moi je fais partie, à des émotions qui sont plutôt positives et à sortir un peu de cette torpeur et tourmente dans laquelle on est fondamentalement quand on est hyper engagé sur les questions écologiques, qu'on rentre dans un cycle d'émotions qui sont parfois très dures à vivre. Et c'est ce qui est appelé éco-anxiété qui est vécue par beaucoup de jeunes aujourd'hui. On peut réussir à se connecter à d'autres émotions et notamment à ce désir. Et en fait, c'est une émotion qu'on a peu mis dans le livre Genre, je sais pas pourquoi, on a plutôt parlé de la joie, on a plutôt parlé de la nostalgie, en fait, d'un paysage disparu et donc d'un attachement. Mais en fait, effectivement, cette notion de désir, je trouve qu'elle nous manquait à ce moment-là quand on l'a écrit. Je trouve qu'en fait, elle vient dire quelque chose aussi de cette espèce de, en fait, de ce qui existe quand on se retrouve, pour aller dans du très concret, quand on se retrouve sur un site de construction d'un grand projet inutile et imposé, quand on s'attache dans une action de désobéissance civile pour essayer d'être empêché d'être délogé par les flics à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe là? C'est qu'il y a en fait aussi une espèce de pulsion de vie, de protéger, et donc ce désir de protéger cet espace-là, quoi. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que je pense qu'il y a peu de militants et de militantes, en tout cas, qui conscientisent que c'est ça qui se joue en eux à ce moment-là. Parce qu'on est dans une énergie du contre, d'abord, et qu'on oublie en fait qu'au fond, en creux, il y a cette énergie du pour qui existe aussi. Et on se bat, hein, je finirai là-dessus, mais dans les milieux écologistes, pour essayer de retrouver ce pourquoi on bat, pourquoi on se bat et qu'est-ce qu'on veut proposer comme autre modèle, et pas seulement qu'on nous affilie à une énergie du contre en permanence, qui sont juste les anti-tout, comme on nous appelle quand on est écolo, quoi.
Alors, je vais repartir sur le mot désir.
Anne Simon.
C'est un mot compliqué, en fait. En tout cas, il semble que étymologiquement, il soit lié à Sidus, Sidéris, aux étoiles. Et ça nous rappelle peut-être qu'il n'y a pas de paysage sans ciel, hein, qu'il n'y a pas de paysage, justement, sans horizon, sans quelque chose qui est plus grand que nous. Et moi, la question du désir de paysage, hein, c'est pas seulement la question de désir de certains paysages que j'aime arpenter, notamment dans la randonnée, etc. Peu importe, c'est mon histoire personnelle. J'ai envie de l'aborder, cette histoire de désir aussi, du désir à l'intérieur du paysage. Comment les écrivains et les écrivaines vont parler du désir dans les paysages, et notamment aussi des désirs intenses. Peut-être que moi, ce qui m'intéresse dans la question du désir, c'est l'archaïque, l'intensité, qui peut comprendre le négatif ou le positif, qui peut comprendre la rivalité, au sens où dans la rive d'un fleuve, il y a deux rives. Hein. Enfin, dans un fleuve, il y a deux rives, et que la rivalité entre les humains, elle vient aussi de cette question-là, de qui peut habiter telle rive ou non. Et les écrivaines, ce qu'ils nous disent, c'est que dans le paysage, on peut avoir envie de se perdre, on peut avoir du mal à se perdre. C'est par exemple le cas du début du Vice-Consul de Marguerite Duras, où on a une mendiante, une jeune femme qui n'est pas encore une mendiante. C'est une jeune fille très très jeune qui est enceinte et que sa mère fait sortir de chez elle. Elle la sort de la domus, de la demeure partagée, du foyer. Et cette jeune fille va mettre des années et des années à se perdre dans un paysage qui ne cesse de la ramener vers chez elle. Alors ce départ de chez soi, c'est peut-être une très belle façon d'aborder la question du paysage. Donc ça peut être très violent, ce qu'on ressent à l'intérieur du paysage. Et cette violence, elle n'est pas forcément négative. Il y a toute cette question du désir, et j'en reviens à Giono. C'est un très très grand peintre du désir dans la nature, et de ce que fait le désir à la nature, c'est-à-dire qu'il construit en fait des lignes d'intensité, des lignes d'érotisme, des lignes de dévoration aussi. Et là, je ne suis pas en train de vous parler d'humain, en fait, je suis en train de vous parler de bête. On a un texte de Giono qui s'appelle « Promenade de la mort ». C'est un cheval qui tire une charrette avec un homme dedans qui s'appelle Père. Et cet homme meurt dans la charrette. Et donc ensuite, le cheval va se retrouver livré à lui-même, livré à ce que Giono appelle le nocturne. Et il va rentrer dans un paysage très paradoxal qui est un paysage de nuit. Comment peindre non seulement un paysage à partir du désir animal, mais aussi le peindre à partir de la nuit. Et c'est là qu'on va retrouver ce qu'on a déjà abordé, que le paysage peut s'élaborer à partir d'autres sens que celui de la vue. Donc c'est une gageure incroyable pour l'écrivain, puisqu'il doit écrire un paysage dans une perspective animale, et ce paysage est nocturne. Et le désir, dans le nocturne, c'est un désir du sang. Le sang, que ce soit chez Baudelaire, chez Giono, chez de très nombreux auteurs, on a le sanguis, qui est le sang qui tourne dans nos corps et qui est le sang de la vie, du cycle de la vie. Voilà. Et puis il y a le cruor, hein, qui a donné le mot cruauté, et qui est le sang qui sort du corps parce qu'il y a eu effraction du corps. Et Giono va mêler ces deux sangs-là pour nous donner à lire l'amour, la bestialité vraiment, l'amour des bêtes. Donc il nous dépeint des scènes d'une crudité incroyable où on va avoir des sangliers qui vont faire l'amour avec une truie tout en s'entre-dévorant les uns les autres. Et moi j'aime beaucoup l'idée que le désir et le paysage soient aussi reliés à l'intense.
Quand j'étais enfant, j'étais dans cette vallée ici.
Fabrice Hibert.
Et en fait, ce dont je me souviens, c'est l'eau qui coulait dans les petits ruisseaux. Quand on est gamin, on a à peine 10 ans, je pense. Et j'aimais beaucoup marcher dans l'eau. Et en fait, pour moi, ces émotions-là, marcher dans l'eau comme ça, avoir l'air, la brise, quand il fait doux, et toutes ces émotions-là, c'est ce truc qu'on a envie, et on a envie de le multiplier et de faire en sorte que ce paysage soit que ça en permanence. Et depuis ce temps-là, je pense que ces émotions-là qui me font créer ces paysages. Et cette idée de bien-être comme ça, c'est très très important. Et en fait, le paysage, c'est là où on est bien. Alors à chaque fois, quand je vois des choses qui sont traumatisées et tout ça, en fait, je fais en sorte de trouver les moyens de faire en sorte que ce paysage devienne un endroit de bien-être. Et j'espère que tout ce que je mets en place montrera aux gens comment on peut mettre en place des espaces de bien-être pour chacun. Que tout le monde doit être aussi heureux que moi, parce que j'aimerais bien ça. Et en fait, ça me rappelle à un moment donné quand j'étais avec des artistes qui avaient rêvé du Brésil et qui vivaient dans des forêts en Amazonie. Et à un moment donné, tout d'un coup, je me suis aperçu on se baladait dans la forêt ici, et puis il parlait du chemin des singes. Évidemment, il n'y a pas de singes chez moi en Vendée, enfin, il n'y a pas de singes. Mais là-bas, il parlait du chemin des singes, comme s'ils pouvaient venir là. Et puis tout d'un coup, ils ont parlé du ciel. Et à ce moment-là, j'ai compris que leur ciel à eux, il était juste entre les feuilles. Et que nous, le ciel était à l'horizon. Et donc, cette chose-là, en fait, et puis ça m'a fait penser à peut-être que les étoiles étaient au bout de leurs feuilles. Et tout ça, et donc ça m'a fait créer des images, tout ça. Pour moi, c'est l'émotion, le corps dans ce paysage. Je me souviens très bien quand j'étais petit où je mettais les pieds dans l'eau comme ça. J'adorais ça. Et puis l'eau coulait entre l'herbe, mes pieds, la glaise qui donne ça. Puis après, je faisais des petites barrières pour changer le courant d'eau. En fait, j'adorais fabriquer le paysage. Et cette fabrication du paysage, eh ben ça me rend responsable par rapport à tout ça. Et à un moment donné, je me souviens très très bien, c'est un petit peu plus loin par là, là où il y a les fruitiers là. Eh ben je faisais tous ces chemins-là, puis tout d'un coup j'enlevais un barrage et le son changeait. Et depuis qu'il y a la forêt ici, le son de la forêt a largement changé.
Mais moi, ça va faire liaison avec peut-être la question de la représentation, puisque...
Jean-Christophe Bailly.
Je vais évoquer, pour parler de ça, d'un film que j'ai trouvé magnifique, de Dominique Marchais, qui s'appelle La Rivière, qui est un film qui est de l'année dernière, et qui est un film écologique militant, si on peut dire, qui montre à différentes étapes d'un cours d'eau. C'est des cours d'eau qui descendent des Pyrénées, qui vont se jeter à Bayonne, des gaves, là, comme ça. Le nom m'échappe à la minute. Et il y a des prélèvements comme ça, faits avec des gens qui s'occupent de la rivière. Les praticiens prennent soin de la rivière. Ils regardent comment elle est polluée, comment on peut arranger, comment on nettoie les bords. Et le film a la grande intelligence de ne pas suivre le cours comme ça. Mais tantôt, il y a une scène près de la source, tantôt, il y a une scène en bas, à Bayonne, tantôt, il y a des scènes ici et là, avec tel ou tel groupe de gens. Mais la force du film, la plus grande pour moi, et c'est là qu'on rejoint la question du désir du paysage, c'est que par moment, et pas pour 10 secondes, mais pour 2-3 minutes à chaque fois, il y a des interruptions. Et le discours s'interrompt. des conversations assez ressemblantes parfois à celles qu'on a ici. Il n'y a plus, il y a juste la caméra qui, je dirais pas même, regarde la rivière, laisse couler la rivière, se met devant, et là, il y a quelque chose qui est, c'est de l'art. C'est-à-dire l'art de s'effacer complètement comme sujet, de s'effacer complètement comme intentionnalité, pour laisser advenir cette chose qu'on connaît, mais qu'on oublie tout le temps, qui est, depuis Héraclite, que le temps, le cours du temps, hein, le cours du temps, qui le raconte mieux que la rivière? Et avec, ça peut être le petit torrent dans lequel on met les pieds, comme ce que je viens de raconter, ça peut être le très grand fleuve aussi, et ça peut être des tas de façons intermédiaires, mais dès lors qu'il y a écoulement, dès lors qu'il y a visibilité du temps qui passe. Et cette visibilité du temps qui passe, c'est pour moi ce que je vais chercher dans le paysage.
Je vais essayer de revenir sur, finalement, pourquoi
Gilbert Tsai.
D'un coup un désir de paysage dans le théâtre. D'où ça vient? À une époque où ça ne se faisait pas. Au théâtre, j'y suis venue, on peut dire presque par hasard, enfin par le hasard des rencontres, je n'ai pas fait de formation, donc je me trouvais dans un milieu de théâtre où à l'époque il n'y avait pas de femmes, pratiquement. Il y avait Ariane Mouchkine, et puis bon, c'est tout, sinon c'était un monde d'hommes. Et un théâtre que je trouvais extrêmement anthropocentrique, narcissique, dans le noir. Et c'est vrai qu'au moment où j'étais en possession d'un jardin, où je me suis posé la question de ce que je devais en faire, et où j'ai découvert, moi, effectivement, le désir de paysage et savoir qu'est-ce que je pouvais faire de tout ça, tout d'un coup, je me suis dit, mais j'ai envie aussi de faire éclater cette boîte noire, différents traits du vivant, du vert, et voilà, c'est venu comme ça.
Il me semble essentiel de rappeler que s'il y a un désir de paysage, il se conçoit par contraste. Et d'abord par contraste avec le monde qui va de soi, celui de la vie quotidienne qui se déroule de manière, ou qu'on laisse se dérouler de manière plus ou moins automatique. Par contraste avec cette vie-là, de temps en temps, surgit le temps d'un paysage qui est en fait un temps en quelque sorte à rebours ou en dehors, ou en tout cas différent, où justement on s'ouvre à d'autres perspectives, on se décentre, etc. Et en fait, c'est vrai qu'on voit qu'avec l'urbanisation au cours du 19e siècle, le goût du paysage le plus bucolique possible, justement, dépourvu, c'est très frappant, tout au long du 20e siècle, on va chercher à éviter les signes de civilisation. On va, comme vous savez, Claude Lévi-Strauss fait en sorte de ne pas prendre le poteau électrique ou les indices de civilisation dans les photographies qu'il prend en Amérique du Sud. Donc il y a un effort comme ça pour s'éloigner le plus possible d'un quotidien qu'on récuse, pour aller à la rencontre justement d'autres perspectives, d'autres manières de déployer son existence. Et il me semble que dans mon cas, grandi dans la ville de Nice et donc à la fois au bord d'un rivage où la mer, en fait, est une mer très domestiquée, en fait, c'est une mer de station balnéaire qui a une apparence très spécifique. Il faut vraiment se lever tôt le matin pour en percevoir toute la sauvagerie, toute la différence. Il y a aussi, dans l'arrière-pays, des montagnes très hautes. Et la raison pour laquelle je me suis attaché aux montagnes plus qu'à la mer, c'est principalement, je crois, par effet de soulagement. C'est-à-dire que là où l'urbanité peut être vécue comme oppressante, en fait, on va aller chercher des formes de paysage qui nous soulagent. Et qui nous soulagent pas seulement d'un rythme ou des habitudes de vie auxquelles on est astreint, mais aussi, je crois, nous soulagent de notre propre humanité. Ça veut dire que, isolé dans un paysage, on n'a plus besoin de se souvenir à quel point on est humain. Ça ne veut pas dire qu'on cesse de l'être, ça veut dire qu'au contraire, on continue de l'être, mais d'une autre manière, justement comme simple contact des pieds avec l'eau, simple contact de l'air avec les narines, les poumons, etc. Donc en fait, je dirais que ce qui est très intéressant dans le moment où on s'ouvre au paysage, ce qui est le plus désirant en fait, c'est l'éclatement des désirs en interaction presque autonome. Ça veut dire qu'au lieu de rendre cohérente son expérience, comme on le doit au quotidien, c'est-à-dire pour s'affirmer comme un sujet unifié, le moment du paysage, c'est aussi un moment d'éclatement où, en fait, toutes les sensations sont en quelque sorte laissées à elles-mêmes, se déploient de manière moins contrôlée que d'habitude, et c'est aussi par là qu'elles peuvent entrer en dialogue avec toutes sortes de choses, que ce soit le pétale de la fleur qui d'un coup nous émerveille par son jaune ou par son mauve, toutes les formes du vivant qui d'un coup en fait se trouvent de plein pied avec nous, pas en tant que nous sommes des humains, je dirais même pas tellement en tant que nous sommes des vivants, mais plutôt en tant que nous sommes des sentants, c'est-à-dire que nous nous sentons. Et qu'on sent, évidemment, chacun avec ses sens, mais que ça sent, là. Et que celui qui sent n'est plus tout à fait, encore une fois, l'humain redevable de son action, d'une identité, d'une logique, d'une cohérence, mais une interaction sentante. Voilà où je place mon désir de paysage et où je ressens le paysage effectivement comme un soulagement, pas seulement parce qu'il satisfait mon désir, mais parce qu'il éparpille mon désir dans quelque chose d'autre.
Marguerite Duras, le vice-consul.
Elle marche, écrit Peter Morgan. Comment ne pas revenir? Il faut se perdre, je ne sais pas, tu apprendras. Je voudrais une indication pour me perdre. Il faut être sans arrière-pensée, se disposer à ne plus reconnaître rien de ce qu'on connaît, diriger ses pas vers le point de l'horizon le plus hostile, sorte de vaste étendue de marécage que 1000 talus traversent en tous sens, on ne voit pas pourquoi. Elle le fait. Elle marche pendant des jours, suit les talus, les quitte, traverse l'eau, marche droit, tourne vers d'autres marécages plus loin, les traverse, les quitte pour d'autres encore. C'est encore la plaine du Tonlé Sap, elle reconnaît encore. Il faut apprendre que le point de l'horizon qui vous porterait à le rejoindre n'est sans doute pas le plus hostile, même si on le juge ainsi, mais que c'est le point qu'on ne penserait pas à juger du tout qu'il l'est. Tête baissée, elle rejoint le point le plus hostile de l'horizon, tête baissée. Elle reconnaît les coquillages dans la vase, ce sont ceux du Tonlé Sap. Il faut insister pour qu'à la fin, ceci qui vous repousse demain vous attire. C'est ce qu'elle a cru comprendre que sa mère disait en la chassant. Elle insiste, elle le croit, elle marche, elle désespère. Je suis trop petite encore, je reviendrai. Si tu reviens, a dit la mère, je mettrai du poison dans ton riz pour te tuer. Tête baissée, elle marche, elle marche. Sa force est grande. Sa faim est aussi grande que sa force. Elle tourne dans le pays plat du Tonlé Sap. Le ciel et le pays se rejoignent en un fil droit. Elle marche sans rien atteindre. Elle s'arrête, repart sous le bol.
Maxime Olivier.
Je suis activiste pour la justice sociale et climatique, auteur et danseur. J'essaie d'articuler mes convictions écologique avec des formes d'action à la fois activistes mais aussi des pratiques artistiques, surtout la danse, mais pas que. Et donc je milite beaucoup depuis déjà 5-6 années dans ce qu'on appelle le mouvement climat en France, très mal nommé par ailleurs. J'ai une porte d'entrée dans l'écologie qui est très plutôt science de l'ingénieur en fait, d'une certaine manière, c'est-à-dire les questions climatiques et les problématiques liées au réchauffement climatique de manière générale. Et on a un problème dans le mouvement climat, et notamment de cette génération qu'on appelle la génération climat, qui est très portée sur les questions climatiques et très peu sur les questions de biodiversité. Et donc en fait, moi j'ai mis du temps, et je mets encore du temps, parce que c'est un apprentissage, à savoir réellement ce que je défends ou ce pourquoi je fais de l'activisme, qui serait autre chose que simplement lutter contre le réchauffement climatique.
Ouais, moi je considère du coup que je suis issu de ce qu'on appelle la génération climat, donc c'est grosso modo, pour donner un peu des dates, c'est démission de Nicolas Hulot en 2018 en direct sur France Inter, qui bouleverse beaucoup de personnes, dont moi qui suis étudiant en sciences politiques à ce moment-là, à qui on nous promet des postes en cabinet ministériel, et en fait je me dis, mais si le ministre de la Transition écologique et solidaire démissionne, qu'est-ce qu'on va aller foutre dans des cabinets ministériels qui en fait visiblement n'ont pas le pouvoir qu'ils disent qu'ils ont, quoi. Et puis Greta Thunberg derrière qui lance ses grèves pour le climat. Et donc, moi, je fais partie de cette génération qui est marquée par cette question climatique et marquée par les campagnes de WWF ou de Greenpeace sur, en fait, une notion du paysage qui est très lointaine, très théorique, qui, en fait, sont très éloignées de ce qui, ensuite, va forger mon activisme écolo avec des questions beaucoup plus... territorialisées d'une certaine manière, qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui avec un mouvement comme les soulèvements de la terre qui est vraiment marqué par ce slogan nous sommes le vivant qui se défend, avec une approche très concrète du paysage et des territoires qu'on veut défendre et en fait pour moi c'est issu de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où la victoire de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes s'est notamment fait grâce aux naturalistes et grâce à la défense de certaines espèces et de certains paysages comme les bocages qu'on voulait défendre. Et ce truc-là, qui pour moi n'est pas du tout ma porte d'entrée, et qui pour beaucoup de la jeunesse génération climat, est en fait une question écologique très théorique et très peu ancrée, parce qu'en fait c'est une génération qui est très urbaine, en réalité, quand on regarde dans les manifestations. Moi j'ai commencé à développer ma conscience écolo par les études, alors même que je viens d'une famille d'agriculteurs en Bretagne, et que j'aurais pu avoir cette conscience-là en étant dans un paysage plutôt de campagne, mais que je n'ai pas eu ça. Alors que j'aurais pu voir sûrement les fondements de la biodiversité, les problèmes de pesticides, ce genre de choses. Mais en fait, ça m'a pas. J'étais trop jeune aussi, mais en tout cas, j'ai vraiment pris conscience des enjeux écologiques plutôt par les études et plutôt dans une sociologie urbaine et du coup loin des paysages qu'on doit défendre. Enfin, que moi j'ai l'impression qu'il faut défendre, en tout cas, dans mon point de vue. Les luttes écologistes aujourd'hui, elles se rapprochent des personnes qui habitent ces paysages qu'il faut défendre. Et donc, il y a une grosse convergence entre les milieux paysans et les milieux écolos aujourd'hui sur la question, par exemple, des méga-bassines. Mais c'est un exemple très concret. En fait, une autre approche que je pourrais donner, c'est, par exemple, quand on parle d'éco-anxiété chez la jeune génération, on parle de cette question de projection dans le futur qui angoisse beaucoup les jeunes générations. Et en fait, on a un autre terme qu'on utilise plus pour parler de ce qui se passe chez les plus ancienne génération, qui est la solastalgie, qui en fait est la nostalgie d'un paysage disparu. Et en fait, on retrouve cette solastalgie beaucoup plus chez les personnes âgées, parce qu'elles ont connu ces paysages et elles les voient être abîmées, quoi, se transformer, alors que la jeune génération, est en fait, de manière moins tangible, moi, on me parle des fondements de la biodiversité et de la perte d'un certain nombre d'insectes, par exemple. Je l'ai conscientisé théoriquement, mais en fait, je l'ai pas vécu sur mes pare-brises. C'est un peu le truc de... Moi, je vois mes grands-parents me parler de ça, et en fait, eux, ils ont vécu ça. Ils peuvent te dire de manière très tangible, et c'est un truc qui est beaucoup plus sensoriel pour eux que pour nous, qui l'avons lu dans les rapports du GIEC ou les rapports de l'IPBES sur les questions de biodiversité, quoi. Et donc ça, c'est vraiment un rapport qui est différent entre générations, et donc je trouve ça intéressant aussi de voir que... peut-être parce que la sociologie de la génération climat est beaucoup plus urbaine à certains endroits, je pense qu'on est encore loin, en fait, de cette notion de paysage. La notion d'artivisme, déjà, c'est un néologisme qui fait le lien entre l'art et l'activisme. Je crois que, pour moi en tout cas, c'est un mot qui a une volonté de faire pied de nez à toutes celles et ceux qui se prétendent faire un art engagé. Il y a, chez beaucoup d'activistes, un peu de colère, je pense, vis-à-vis de ce qui peut être perçu comme de l'art engagé, qui en vérité n'a pas d'impact sur le monde matériel. Et donc il y a une volonté chez beaucoup d'activistes de dire comment est-ce que des productions artistiques vont vraiment transformer le réel. Et ça, c'est ce que peuvent développer, notamment sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, pour rester sur cette thématique, Jay Jordan et Isabelle Frémaux, qui sont deux artistes qui ont d'abord vécu en Angleterre et qui aujourd'hui habitent sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et qui vraiment insistent pour le fait de dire que l'artivisme, c'est-à-dire un art qui est vraiment activiste, transforme le réel par son action. Et c'est pas un art qui voudrait être représentatif et qui serait un art engagé, qui peut exister par ailleurs et qui a sûrement toutes ses raisons d'exister, mais qui du coup n'est pas de l'artivisme.
Cet épisode est soutenu par l'École des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire, l'Atelier de Sèvres, Nantes Université et l'association Fieldwork Marfa.